Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek avec, comme chaque semaine, Marjorie. Salut Marjorie! Alors on la refait évidemment, hein. Salut Marjorie avec le micro allumé bien sûr.
Salut à tous.
Pardon, et puis nous avons Ludo aussi qui est avec nous en studio. Salut Ludo.
Salut à tous.
Voilà, j'aime ton micro dès le début ce coup-ci, ce sera beaucoup plus efficace. Ça va devenir un running gag, hein, ce coup du micro pas allumé ou allumé. J'en suis désolé, pardon, petit technicien débutant, c'est un vrai problème de manipulation. On vous parle cette semaine de manga, de culture japonaise, on vous parle d'anime également. Et puis on essaie de vous expliquer aussi comment cette culture, elle est arrivée en Occident et particulièrement en France. Alors la culture japonaise qui arrive en Occident, bien sûr, on s'attaque plutôt à l'axe des mangas et des animés, puisque la culture japonaise, on le sait tous, est extrêmement vaste. D'un côté, toute la partie high-tech, de l'autre côté, le Japon médiéval, les samouraïs et les arts martiaux. Ce sont des univers qui sont aussi très intéressants et où on peut trouver plein d'éléments de culture geek ou en tout cas d'inspiration de phénomènes geek. Mais ce à super quoi on va s'attacher plus particulièrement, c'est ce qu'on peut retrouver notamment à la Japan Expo, ce salon qui a lieu chaque année à Paris et qui rassemble des milliers et des milliers de fans de la culture japonaise et des mangas. Et pour vous parler un petit peu justement de cette différence entre manga et animé, Marjorie, toi qui es notre spécialiste cinéma, est-ce que tu peux nous donner un petit détail sur justement ce que c'est qu'un animé ?
Alors un animé, c'est un manga traduit sur les écrans en couleur qui dure à peu près 20 minutes par épisode. Vous comptez 10 minutes de générique, donc vous avez 10 minutes d'épisode. Et bien souvent, vous avez des séries très très longues. Je parle notamment d'un certain Naruto qui en est à son 482e épisode, ou à One Piece. À One Piece qui a donc plus de 600 épisodes à son compteur.
Alors Ludo, on te connaît hein, sur Génération Geek pour ta spécialité sur les jeux de plateau, les jeux de société, puisqu'on te retrouve hein, dans les vlogs ou les podcasts qu'on réalise à niveau de Génération Geek, notamment sur YouTube, pour effectivement vous présenter en vidéo quelques éléments de culture geek. On te connaît aussi pour l'émission La Ludothèque à Ludo, dans laquelle tu présentes des jeux auxquels tu joues avec des petits camarades, émission que tu montes, que tu produis, etc. Mais on le sait moins, tu es aussi, alors je vais peut-être pas dire spécialiste, comme tu l'es des jeux de société, mais tu as une vraie culture manga. Est-ce que tu peux nous donner quelques éclaircissements assez rapidement sur ce que c'est justement qu'un manga ? Est-ce qu'il y a une périodicité propre ? Est-ce qu'il y a un format propre ? Est-ce qu'il y a un style de dessin, un style de lecture, etc. Voilà, raconte-nous tout ce que tu as à nous dire sur les mangas. Si demain, l'un de nos auditeurs se dit, bah voilà, les mangas, ça me tente, je vais en acheter un, à quoi est-ce qu'il faut qu'il s'attende et quelle surprise il faut qu'il n'ait pas ?
Alors déjà, la première surprise à éviter d'avoir, c'est le sens de lecture. Il faut savoir que les mangas se lisent de droite à gauche et non pas de gauche à droite.
Mais pourquoi est-ce que ces feignants d'éditeurs n'en remettent pas les pages dans l'ordre ?
Parce qu'on perdrait le fil conducteur qu'a voulu le dessinateur, voyons.
Donc un manga, on commence par la fin, c'est-à-dire qu'il faut pour le lire, on commence pas par la première page en ouvrant le livre de gauche vers la droite, mais il faut retourner le livre et puis ouvrir la page qui correspond à la quatrième de couverture vers la droite. Et puis c'est vrai qu'il y a parfois des dessins qui sont en double page, que l'organisation des cases de ces BD que sont les mangas donne un sens, et si on inverse tout, bon, on perd une partie de cette qualité-là, effectivement.
C'est ça, il faut savoir.
Et le sens de lecture est lié à l'écriture japonaise, je pense, ça.
Notamment, et il faut aussi savoir que les mangas par rapport aux BD conventionnels, enfin des BD francophones, franco-belges dont on a l'habitude, sont beaucoup plus orientés sur le mouvement, paradoxalement pour quelque chose qui est figé sur du papier. En fait, ils ont une façon assez particulière de retranscrire le mouvement, les émotions, qui est difficilement retranscrite. Si jamais on change le sens.
Graphiquement, visuellement, on a l'habitude de ce dessin manga, des têtes qui sont parfois un peu androgynes, avec les personnages, on a parfois du mal à savoir si c'est un garçon ou une femme, simplement sur la forme du visage, des yeux très très grands, des expressions parfois faciales qui sont très très marquées, des corps aussi qui ont effectivement des traits particuliers, des silhouettes qui sont parfois élancées, exagérées. Est-ce que ça, c'est une caractéristique qui est propre à absolument tous les mangas ou simplement à une partie des mangas? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que quand on parle de la BD franco-belge, quand on voit Astérix et Tintin, on sait bien qu'il y a un style particulier sur les aplats de couleurs, sur la forme des cases, sur une forme de caricature peut-être même parfois, mais enfin, on n'est quand même pas sur le même dessin et on distingue assez facilement Tintin d'Astérix et Obélix. Moi, personnellement, en tant que grand novice, si je prends Olive et Tom et Dragon Ball, bah, j'ai l'impression que ça se ressemble quand même pas mal.
tous les mangakas dessinent leurs personnages à peu près de la même manière, c'est vrai. C'est plutôt des silhouettes très androgynes, très élancées, à part si le personnage a un petit peu d'embonpoint. Les traits sont très droits, très, presque géométriques, j'ai envie de dire, pas très ronds. Les ronds sont un peu bannis du manga, enfin en tout cas en matière de silhouette de personnages, c'est vrai. Le plus flagrant étant vraiment ce côté androgyne. C'est vrai que si on n'a pas la poitrine, si on n'a pas une jupe au personnage, on peut difficilement quand même savoir si c'est une femme ou un homme.
Ce que je voulais rajouter justement au niveau du dessin, alors effectivement, on retrouve un petit peu toujours le même genre de code. Par contre, on a clairement pu voir une évolution aussi au fil du temps, justement sur le dessin des mangas. En prenant par exemple, pour les plus connus, des Albator ou Goldorak, on va avoir des dessins un petit peu plus fins. Et on tend aujourd'hui vers un dessin un petit peu plus caricatural, un petit peu plus expressif aussi. Je prends notamment l'exemple de Dragon Ball Z, Dragon Ball et de Olivier Tom, qui sont de la même époque, où justement, en fait, on voit des modes au niveau du type de dessin.
Alors après, cette idée de la forme de visage et des yeux qui sont très grands, parce que c'est une des caractéristiques principales, hein, ces yeux qui sont, ils sont allez, 4 à 10 fois plus grands que les yeux d'un humain normal qu'on dessinerait sur les codes, on va dire, grecs du dessin ou de la sculpture. Ce style-là, il dépasse clairement l'univers du Japon. On peut le voir dans les comic books américains que, effectivement, il y a une partie de ces codes-là qui sont repris, alors pas toujours, mais pour certains usages. Même on peut le voir en France, il y a certains dessinateurs de BD franco-belges qui, sans faire du manga à la française, récupèrent une partie des codes dans leur production.
Alors c'est vrai qu'après, quand on est sur papier et surtout sur du dessin, je pense que si vous voulez représenter les sentiments d'une personne, c'est pas comme au cinéma, c'est pas comme dans un livre. Dans un livre, on a beaucoup de descriptions. Sur un dessin, par contre, c'est vrai que la majorité des sentiments, en tout cas dans les mangas, passent par les yeux. C'est vrai que si les yeux sont à demi baissés, s'ils sont grands ouverts, s'ils ont l'air surpris, s'ils ont l'air larmoyants, si le personnage est heureux, déprimé, on le voit tout de suite et bien souvent grâce aux yeux et très peu par la posture même du personnage qui peut être recroquevillé ou droit. Mais en fait, on voit surtout les yeux.
Alors, je compare encore une fois à cette bande dessinée franco-belge. On a des albums cartonnés, un nombre de pages qui est relativement, un nombre de planches qui est relativement précis. Est-ce qu'il y a sur le manga un format assez précis aussi? Moi, je vois les mangas qui peuvent traîner à la maison ou qu'on peut voir en librairie. On a un format qui est proche du livre de poche, mais qui n'est pas exactement le format du livre de poche. Est-ce qu'il y a un format stéréotypé pour le manga ou est-ce qu'il y a quand même des variations? Et puis, quelle est la périodicité? Est-ce qu'il y en a une? Parce qu'on a la périodicité française avec la diffusion française, mais est-ce qu'il y a une périodicité spécifique au Japon? Sachant que je sais aussi qu'il y a beaucoup de mangas qui sont lus aujourd'hui sur smartphone et pas en papier. Notamment dans les transports en commun, on peut voir des reportages sur le Japon. On voit des Japonais qui lisent des mangas, mais qui lisent sur leur smartphone. Trois questions en une, voilà, c'est cadeau.
Voilà, merci. Alors oui, c'est vrai que les mangas sont de plus en plus lus sur les smartphones. Après, en France, il est vrai que les mangas sont tous édités à peu près de la même manière et dans le même format, c'est-à-dire un petit livre qui ne dépasse pas le livre de poche, effectivement, mais avec beaucoup plus de pages. Je crois qu'on est à près de 150 ou 200 pages. Voilà, ça c'est le format classique en France. Après, au Japon, il est fort possible que ce soit à peu près le même format. En tout cas, pas un format magazine. Après, ce que je sais, c'est que les mangas au Japon sortent toutes les semaines. Toutes les semaines, on a le prochain... C'est comme les comic books.
Un peu comme les comic books, pour le coup.
Un peu comme les comic books américains, où on a un numéro par semaine. Et au Japon, c'est pareil. Les mangas, le prochain numéro, vous l'aurez la semaine d'après.
Alors on va faire une petite pause musicale, j'espère que la musique sera dans le ton et qu'elle vous plaira. Juste après, on va parler justement de ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment cette culture japonaise, elle a imprégné aussi la France, et notamment la France des années fin 80, début 90, et qu'elle a nourri un petit peu les jeunes geeks que nous étions à l'époque. Voilà, on parle de culture geek et japonaise dans Génération Geek sur RCF avec Marjorie et Ludovic. On a beaucoup parlé de manga, notamment dans la version papier en ce début d'émission. Cette culture japonaise, Ludovic, elle est arrivée en France par le biais de la télévision, surtout.
Oui, surtout, notamment par le Club Dorothée que
tu n'avais pas le droit de regarder.
Que je n'avais pas le droit de
moins bien placé pour en parler, c'est ça qu'on est en train de me dire.
C'est ça. Non, mais c'est bien, je te livre des trucs de mon enfance, c'est cool. Non, je n'avais pas le droit de regarder le Club Dorothée, surtout, notamment à cause des mangas et tout ça, mais je me suis rattrapé une fois que j'ai eu le droit et que du coup, il y avait plus de qualité à regarder.
Alors, le Club Dorothée, moi, je m'en rappelle, c'était Olivier Tom, c'était Goldorak, c'était, je crois qu'il y avait Ken le Survivant aussi, enfin, il y en avait d'autres comme ça, Dragon Ball Z, évidemment. Certains étaient plutôt assez violents, voire très violents. Pour en avoir revu certains étant plus grands, typiquement Olivier Tom ou Jeanne et Serge, c'est d'une qualité absolument basse. C'est-à-dire que l'histoire ne pose pas de problème, mais on sent qu'il y a cette pression de production de sortir beaucoup d'épisodes à un coût très moindre. C'est d'ailleurs pour ça que le Club Dorothée avait acheté ces dessins animés étrangers, parce que ça ne coûtait pas très cher. Et quand Olivier Hatton, d'ailleurs, son famille c'est Hatton, il lui faut 3 épisodes pour remonter un terrain de football. C'est pas pour rien, c'est que juste y a le décor qui déroule, le personnage qui fait le même geste, qui est cadré au niveau de la tête, il dodeline juste un petit peu, et ça suffit à faire une scène qui coûte pas très très cher.
Alors le souci, c'est que les animés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont basés à partir des mangas. Les mangas, leur rythme de parution, c'est une par semaine. Les animés, c'est aussi un par semaine. Sauf qu'il est plus facile de faire un manga que de faire un épisode d'animé. Donc le souci, bien souvent, et c'est là que les fans hurlent, parce que par exemple dans Naruto, ce qui décourage, ce sont le nombre de hors-série d'épisodes qui ne font pas partie de l'histoire, mais qui sont là. Tout simplement parce que l'animé a rattrapé le manga et que du coup le manga est terminé, on attend l'épisode suivant. Donc il faut bien faire patienter un petit peu les spectateurs. Donc on rallonge l'animé, on essaye de le faire aller moins vite parce que le manga prend plus de temps puisqu'on crée. Alors que l'animé, lui, ne fait que copier le manga.
Mais effectivement, on est sur une production en termes de coût qui devait coûter le moins cher possible. Et c'est pour ça que parfois, la qualité n'était pas tellement au rendez-vous. Après, il y a un mode de production qu'on retrouve dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est ces décors qui sont des décors peints, souvent à la main, pour le coup d'une belle qualité, mais qui sont souvent relativement fixes. C'est-à-dire que le décor, il ne se passe pas grand-chose. Quand vous regardez Les Chevaliers du Zodiac ou effectivement Olivier Tom ou d'autres, vous avez ce décor de fond dont vous voyez très bien que c'est de la peinture. Il y a quelques scintillements éventuellement sur l'eau, le ciel ou autre, mais il n'y a pas des choses qui se passent. Et puis il y a ces personnages qui évoluent, qui eux sont dessinés effectivement à la main dessus et qui n'ont pas du tout la même profondeur et la même forme, en tout cas au niveau de la peinture. Et ça donne un style qui est assez particulier et qu'on retrouve dans beaucoup de mangas et même dans des longs métrages de grande qualité qu'on peut voir ensuite au cinéma. Alors il y a effectivement donc ce Club Dorothée qui arrive et qui livre un grand nombre de mangas, enfin d'animés en tout cas en France. Les enfants sont plutôt fans de tous ces héros, que ce soit les Chevaliers du Zodiac ou autres. Il y a des produits dérivés qui sortent aussi. Et puis pour moi, les enfants ont grandi et se sont vraiment intéressés à cette culture-là, à la culture du manga. Et là, voilà, ils ont découvert d'autres choses, des choses parfois plus qualitatives, et tout un univers qui existe autour de ça.
Le truc qui est bien, surtout avec le manga, et c'est pour ça que les geeks d'aujourd'hui s'en souviennent et ont été très imprégnés, c'est que le thème principal d'un manga ou d'un animé japonais, c'est l'enfance. Tous les personnages sont au maximum âgés de 20 ans. Voilà, donc vous avez de 5 à 20 ans. Donc plutôt le public qui regarde Dragon Ball Z, il a entre cet âge-là, il est un adolescent, donc il est très influencé par ça, en fait.
C'est un thème qui est interculture, finalement, ce thème du passage de l'enfance à l'adulte.
Mais
avec les rites de passage.
Très prisé au Japon.
On le retrouve aussi bien dans Star Wars que dans Le Seigneur des Anneaux, que dans beaucoup de mangas, effectivement.
Alors, je voulais introduire un petit bémol, quand même, sur justement le thème de l'enfance. C'est que, alors effectivement, en fait, la plupart des mangas qu'on connaît aujourd'hui, qui sont très connus, la plupart sont ce qu'on appelle des shonen, qui sont destinés à des adolescents. Et fatalement, puisque le public, la cible, sont des adolescents, les personnages principaux sont également des adolescents ou des enfants. Après, effectivement, les mangas moins connus, qui sont destinés, au contraire, justement, à la différence à des adultes, sont introduisent au contraire des personnages beaucoup plus mûrs et plus adultes.
Cette culture japonaise, elle est arrivée aussi en France par les consoles de jeux, notamment les fameuses Sega, Mega Drive et autres, la Nintendo, etc. Et puis tous les jeux qui allaient avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre autour effectivement, de cette culture japonaise? On a parlé effectivement du manga et des animés, on parle un petit peu des jeux vidéo. Aujourd'hui, comment elle est vécue par les fans? Est-ce que c'est pas Okatu, otaku, qu'on dit, un fan un geek fan de culture japonaise,
c'est oui, pas ça c'est le terme ça.
Voilà, il me semble bien que j'avais un. Alors on dit quoi, Okatu ou otaku?
Otaku.
Otaku, voilà, qui est donc un geek en fait de la culture japonaise, donc un fan occidental de la culture japonaise. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il occupe ses loisirs? Il lit des mangas, il voit des animés, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre?
Ah bah, il fait du cosplay. Il fait du cosplay, ça a été inventé au Japon. Enfin,
pour bien rappelle, le cosplay, ce que c'est se déguiser, se costumer.
De manière précise de manière et exacte, ressemblant à son personnage préféré.
Et souvent par soi-même. C'est-à-dire qu'on peut pas. Enfin, le principe du cosplay, c'est de faire son propre costume. On n'achète pas les accessoires, on n'achète pas le costume.
Non.
Et de l'incarner, du coup, dans des salons et des événements comme la Japan Expo, qui a lieu effectivement en France, à Paris, chaque année.
Tout à fait. Et ça, c'est typiquement japonais. Mais de toute façon, les Japonais, ils sont plus geeks que nous. Ils sont plus geeks que les geeks les plus extrémistes américains. Et surtout, ils sont beaucoup plus fans que nous. Enfin, je pense que les Japonais, quand ils sont fans d'un univers, c'est à fond. Mais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et de toute façon, bon, là-bas, un geek qui se balade dans la rue en cosplay de Sakura avec les cheveux roses, ça choque personne, en fait. Il ne sera pas regardé de travers, on le jugera pas mal, ce sera juste un geek, et c'est bien vu là-bas, donc il n'y a pas de...
Ce qu'il y a d'assez étrange, c'est qu'on le sait bien que cette culture geek, ces univers imaginaires permettent de s'évader parfois de son quotidien, et donc qui montre aussi quelque chose de la société. Alors, cette grande tolérance envers, on va les appeler les geeks, même s'il y a d'autres noms qui existent, les geeks japonais, est-ce qu'elle n'est pas d'une symptomatique d'une vraie grande tolérance, mais aussi peut-être d'un phénomène de masse plus massif qu'en, on va dire, en Occident? Mais est-ce que c'est pas symptomatique aussi d'un besoin peut-être plus important des Japonais de s'extraire de leur quotidien dans de l'imaginaire, parce qu'il y a une pression sociale de la famille, de l'entreprise, etc., qui est beaucoup plus forte au Japon qu'en Occident? Voilà, je pose une question de débat philosophique comme ça, j'ai ça là.
Alors, on va parler sociologie dans Génération Geek aujourd'hui. Donc, est-ce que les gens sont plus sous pression au Japon qu'en Occident? Oui, clairement oui, mais ça peut influencer aussi. Je pense clairement que les Orientaux, et plus particulièrement les Japonais, sont plus tolérants qu'en Occident. En tout ce qui concerne les goûts et les couleurs de chacun, en fait.
Il y a des choses incroyables qu'on peut voir quand on regarde un petit peu les forums sur le Japon, ou même la presse, notamment sur Internet, qui raconte un peu des voyages au Japon ou autre. Voir une jeune femme dans la rue avec des espèces d'oreilles de chat motorisées qui doivent traduire ses émotions, ce n'est pas choquant.
Absolument pas.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un combo avec des oreilles de chat, une espèce de petite queue de chat ou alors de Pokémon, et puis en fait c'est programmé pour que quand elle envoie un smiley je souris ou un smiley triste, et les oreilles se baissent ou se relèvent, et en fait en France elle aura un attroupement tout de suite autour d'elle parce que c'est marrant et bizarre. Au Japon ça passe.
Mais pourquoi ce serait choquant au final quand on se pose la question? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut.
Je sens que Marjorie va venir travailler avec des oreilles motorisées au-dessus de la tête.
C'est bien plus facile que d'exprimer ses sentiments avec des mots. Hein. Au moins, les oreilles font toutes seules. Moi, je dis c'est pas mal, hein, c'est une grande liberté.
Est-ce que tu as des conseils, justement, Ludo, sur des gens qui voudraient découvrir un petit peu cette on va dire culture geek japonaise? On aura une émission complète consacrée aux animés, mais s'il y a quelques mangas, mais je dis Ludo, mais c'est tous les deux, hein, parce que moi je suis pour le coup vraiment pas suffisamment doué, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens? Dans quel genre? Est-ce que c'est plutôt des jeux vidéo? Est-ce que c'est plutôt des séries, des mangas? Vers quoi vous partiriez? Quelqu'un qui veut découvrir, on va dire un adulte, allez, 20-30 ans, qui ne connaît pas beaucoup la culture japonaise, ou même plus, et qui veut se plonger dans un univers.
Déjà, commencer par lire quelques mangas. Alors, on va commencer par du classique, vraiment classique, notamment un One Piece. On peut essayer. Je sais, t'aimes pas, Ludo, il me fait des grands yeux, là, mais il y en a qui aiment.
One Piece, c'est quoi l'histoire?
C'est l'histoire d'un pirate, d'une bande de pirates, et ils veulent faire le tour de l'océan. On en est au 700e épisode sur 2 saisons. Ils ont fait le quart du trajet.
Bon, Naruto, on en a déjà parlé, le ninja, on voit plutôt ce que c'est. Mm-hmm. Peut-être un univers un peu plus grand public, des thématiques plus larges, en dehors du shonen peut-être. On rappelle, le shonen, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, en fait.
C'est ça. C'est des mangas pour
adolescents. Mmh. Une référence, Ludovic, peut-être ?
Deux petites.
Vas-y.
Alors, au niveau du manga, moi, j'aime beaucoup Monster, justement, parce que c'est pas un grand classique. Il rentre pas forcément dans l'archétype, justement, du manga, et qui est très bien écrit, qui est un polar, thriller, limite à l'occidental, mais fait de manière japonaise, que je conseille vraiment. Et le deuxième, c'est un coup de cœur, c'est Cowboy Bebop, notamment pour une bande originale exceptionnelle et effectivement une façon d'aborder
le sujet. Là, on est sur un animé, du coup.
On est sur un animé. Un animé qui se passe dans l'espace, vraiment type space opéra, avec un léger décalage, un petit peu à la Moebius, pour ceux qui connaissent, avec un thème un petit peu particulier, justement, tout à fait décalé, que j'aime beaucoup.
Est-ce qu'il faut regarder les films inspirés des séries de notre enfance? Je pense qu'il y a un film effectivement sur Albator, il y a un film sur les Chevaliers du Zodiaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avoue que j'ai vu les deux. Je suis personnellement assez perplexe. Mais quel est votre avis? Je ne sais pas si vous avez vu ou pas.
Alors, ça dépend de quelle série les films sont tirés. Il y a les adaptations tout court en film.
Un film sur Olivier Hatton. 2h30 à remonter un terrain de football en continu.
Alors je disais donc, il y a les films adaptés des animés, donc les séries
ça,
animées.
Par contre, ça me rappelle des matchs de foot que j'ai vus récemment.
Sinon, vous pouvez aller sur la chaîne Sport Plus, messieurs, et me laisser terminer sur ma petite réflexion.
Finis donc ta réflexion, qui est fort intéressante.
Voilà. Et donc je parlais des séries animées, les animés japonais. Vous avez entre deux épisodes, vous pouvez avoir le film qui fait juste la jointure entre deux saisons ou même au milieu de la saison, tout simplement. Naruto, on en est au 7e film. Et en fait, si vous n'avez pas vu le film, c'est pas dramatique, mais si vous le voyez, vous avez toute l'histoire en entier. Donc c'est pas trop mal.
Mais alors, pour quelqu'un qui a juste souvenir de films de son enfance, moi je pense au film sur les Chevaliers du Zodiaque, par exemple, qui est sorti là, qui n'est pas du style manga, on est sur de l'image de synthèse, etc. C'est un peu la même pour Albator. Je trouve qu'on n'a pas le charme visuel de ce qu'on voyait quand on était petit. Et puis au niveau de l'histoire, on passe l'expression, mais ça casse pas trois pattes à un canard, laqué, bien sûr. Parce qu'on parle un petit peu de nourriture chinoise.
On n'est pas chinois là.
On fait ce qu'on peut.
On est au Japon.
Pas de sushi.
Oh là là là.
Oui, on essaie de faire de l'humour parfois sur Génération X. C'est pas toujours une réussite. Alors là, on fait ce qu'on peut.
Messieurs, dames, on va vous dire au revoir avant qu'ils ne deviennent complètement barges.
Non, mais blague à part, sur ces films, vous conseillez ou vous conseillez pas?
Moi, je conseille pas.
Moi non plus.
Très bien.
Il y en a qui vont sortir, mais faut rester sceptique.
Si vous voulez regarder des vrais films d'animation japonais, prenez ceux qui ne sont pas tirés de séries animées. Et si vous devez en regarder qui soient tirés de séries animées, faites bien attention à ce que ça appartienne à l'histoire de la série et pas que ce soit juste une adaptation.
Un dernier point sur la culture japonaise, un truc qui marche très très bien au Japon, c'est les karaokés, les bars à karaokés, et puis les karaokés, ça fonctionne très très bien. La danse aussi entre copains dans des salles d'arcade pour plusieurs personnes. Et puis il y a des émissions télé qui sont complètement barges. On en voit beaucoup sur internet, des extraits absolument ahurissants. Quand on voit une émission en France, Guinness des records, etc., on se dit mais... Quel est le cerveau malade qui a inventé un record aussi absolument aberrant? Au Japon, ils sont pires et ils font des records complètement absurdes, des défis complètement absurdes. Voilà. Donc si vous tombez un peu là-dessus sur Internet, regardez les émissions un peu bizarres télé japonaises. Il y a des trucs qui sont complètement étranges.
Dites-vous juste qu'au Japon, ils s'amusent.
Ils ont besoin de décompresser, a priori, effectivement. On va en rester là pour effectivement le... l'apparition de la culture japonaise, la transmission de la culture japonaise en Occident et par les biais. On espère qu'on a fait le tour un petit peu quand même du sujet, qu'on vous donnait quelques billes. On va être un petit peu plus précis la semaine prochaine, puisque là, on va essayer de vraiment vous recommander, pour le coup, des grands films d'animation et des grands auteurs, des choses qui, effectivement, sont passées au-delà effectivement, de la culture japonaise, mais qui sont aussi des chefs-d'œuvre et que là, on vous recommande en tant que bon cinéphile de suivre et de regarder, parce qu'il y a des thèmes qui sont très, très intéressants. À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.
Salut.